Audiolib présente La disparition des choses de Olivia El Kaïm, lue par Françoise Gillard. Pour Ulysse. Nos yeux reçoivent la lumière d'étoiles mortes. André Schwarzbart, le dernier des justes. 1. Je l'imagine gare de Lyon, quai numéro 11, un petit matin froid de l'automne 1941. Silhouette frêle, cheveux noirs coiffés en chignon. Elle serre la main de son fils dans la sienne. Ils rejoignent le convoi de la Croix-Rouge en direction de Grenoble. Il n'en partira pas d'autre. Les Allemands l'ont interdit, certains que ces opérations permettent aussi à des Juifs, des clandestins, de s'enfuir. Paris leur appartient. Cécile, rajuste le bonnet à pompons. Ne perds pas tes moufles. Range-les dans les poches avant ton manteau, mon chéri. Et surtout, n'oublie pas notre adresse. Tu t'en souviendras. Il ne lui répond pas, comme s'il était déjà loin. Elle insiste. Promets-moi, Georges. Promets-moi de t'en souvenir. J'imagine le hurlement qu'elle retient pour ne pas affoler l'enfant. En pinçant l'intérieur de son poignet, entre le gant en cuir et la manche de son manteau en velours bordeaux. Lorsqu'au coup de sifflet, les portes à clapet se ferment. Elle embrasse la vitre voilée de crasse, le visage de son fils une dernière fois. Le train s'ébranle. Le petit garçon se tient sagement derrière le carreau. Il agite la main. Au revoir, mamé. Au revoir, maméchi. Une pancarte avec son nom, son prénom, sa date de naissance, 7 mars 1936, pend à son cou. Dans la précipitation, Cécile omet de dire à l'infirmière de la Croix-Rouge qu'il n'a que 5 ans et peur du noir. Il est le plus fragile de tous, le plus précieux, mon fils. Peut-elle, je vous en supplie, mademoiselle, lui tenir la main jusqu'à l'arrivée du train, le cajoler. Mais dans le brouhaha des mères et de leurs enfants, des piles de valises à hisser en hâte sur la plateforme, elle oublie. Le cri du peintre Édouard Munch est le sien en cet instant. Main posée sur les oreilles pour ne pas entendre les pleurs des autres mères sur le quai. Le chointement métallique du train qui roule lentement, puis de plus en plus vite vers le sud de Paris, le sud de la France, la zone libre. Le convoi disparaît dans un tunnel. La bouche de Cécile, ouverte, large, ne dégage que de la buée, aucun son. 2. Pourquoi Cécile laisse-t-elle partir son fils dès l'automne 1941? Cette question hante mes cauchemars. Je me lève, avance pieds nus dans le couloir, évite les lattes qui grincent, les jouets par terre. J'entre dans la chambre de mon fils de 5 ans. Il est là. Il dort, visage couvert de son doudou lapin mâché. Je m'assois sur la petite chaise du bureau d'enfant, jambes repliées sur ma poitrine. Je le regarde et respire à son rythme apaisé. 1941. Tout est compliqué. On a beau lire les journaux, on ne comprend pas. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On a peur. Si les convois humanitaires sont interdits, quelles seront à l'avenir les possibilités de fuir la capitale? Je réécris l'histoire. Capture des images sur l'écran de mon téléphone. J'imprime frise chronologique, grande date de l'occupation de Paris et de la persécution des Juifs en France. J'ouvre les fenêtres en grand. Mon fils, les voisins, la ville dorme encore.